Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. En amour, on a souvent rendez-vous avec les mêmes histoires, les mêmes schémas. On est parfois l'infirmière ou l'infirmier. On pense qu'on peut sauver la personne qu'on aime. Votre psy vous dirait plutôt « sauvez-vous ». Léna a réussi à se sauver, elle. Malgré le pire, malgré tout.
En 2007, juste après le baccalauréat, je décide avec trois de mes meilleurs amis de partir en camping à l'Île-Dieu. Pour passer une semaine de vacances tous les quatre sous tente. Et Manu est dans l'une des tentes à côté de la nôtre. Je sympathise avec lui, mais vraiment de manière secondaire dans nos vacances. Le dernier jour, au moment où on est en train de ranger les tentes, etc. Manu vient me voir et me dit qu'il va s'installer à Paris dans les semaines qui arrivent parce qu'il va vivre chez ses grands-parents qui habitent à Meudon. Et donc, il me demande mon numéro de téléphone. Mais sur le moment, je le prends vraiment comme quelque chose de tout à fait amical parce qu'il ne me plaît pas particulièrement. Pendant ces vacances-là, il est plutôt maigre. Très blanc, le crâne rasé et habillé vraiment en mode tougher, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais il est très sympathique. Je suis née dans le Jura, donc je viens plutôt de la campagne, mais à partir de mes 11 ans, je vis à Paris. Donc je suis à Paris depuis une dizaine d'années lorsque je le rencontre. Plutôt dans le milieu bourgeois, mais pas du tout traditionnel, avec une mère qui travaille dans le médico-social, donc auprès des personnes handicapées, un beau-père dont je suis très proche, qui travaille en tant que commercial. À cette époque-là, j'ai très peu de relations avec mon père. Il est en couple avec ma belle-mère depuis que j'ai 3 ans et ça s'est toujours passé difficilement jusqu'à mes 15 ans où, pour X raisons, la situation s'envenime et elle décide que je ne dois plus venir chez mon père passer des week-ends ou des vacances. Et donc, je continue à voir mon père, mais un petit peu moins régulièrement, et chez mes grands-parents, en zone neutre, entre guillemets. Par contre, une relation très forte avec ma demi-sœur, donc la fille de mon père et ma belle-mère. Cette relation s'est jamais atténuée, malgré les difficultés que j'ai pu avoir avec sa mère, et c'est toujours, à l'heure actuelle, ma meilleure amie. Je viens de terminer mon bac avec mention dans un lycée parisien et je suis inscrite à Assas en fac de droit en première année. C'est la rentrée de septembre. Une de mes amies, justement avec qui j'étais en vacances à l'Île-Dieu, vient vivre chez moi, donc chez moi et mes parents. Et on décide ensemble de faire une soirée parce que mes parents s'en vont régulièrement le week-end dans le Jura, parce qu'ils ont une maison là-bas. Et à ce moment-là, je ne me souviens plus qui reprend contact avec qui, mais en tout cas, j'ai des nouvelles de Manu, et donc je lui propose de venir à cette soirée. Et donc, on se donne rendez-vous au métro pour que j'aille le chercher et le faire venir à la maison. Et là, j'ai un énorme coup de cœur pour lui. Il y a vraiment une transformation physique en quelques semaines. Ses cheveux ont repoussé, il est bronzé, il a repris du poids, il s'est laissé pousser la barbe. Vraiment, je le trouve magnifique. J'ai l'impression que c'est une autre personne que je rencontre au métro. Vraiment, comme s'il avait été malade lorsque je l'ai rencontré à Lidieu, ce qui était le cas au final, quand je le saurai après. Il est magnifique, il est souriant, donc c'est vraiment un coup de foudre de mon côté. Et donc je l'emmène à la soirée se passe, il s'intègre plus ou moins à mon groupe d'amis, mais en même temps il connaît personne. On flirte un petit peu, mais rien de plus. Et il nous demande s'il peut dormir à la maison puisqu'il habite à Meudon. Et donc je lui dis oui, je lui laisse ma chambre, je dors avec mon ami. Le lendemain matin, on se réveille, on discute. Et vraiment, j'apprécie de passer du temps avec lui. Et je me dis, j'ai vraiment envie de le revoir. Je ne sais pas vraiment s'il a un coup de cœur, mais je me dis que j'ai mes chances en tout cas. On se revoit quelques fois et au bout de 2-3 fois, je pense, il m'invite justement à Meudon chez ses grands-parents pour passer une soirée avec lui puisque ses grands-parents ne sont pas là. Donc j'y vais et là, très clairement, avec l'espoir qu'il se passe quelque chose et de dormir là-bas. Donc on passe la soirée et puis on s'embrasse. Et c'est génial, il se passe rien de plus, mais voilà, c'est vraiment un super moment. Et moi, j'ai aidé les papillons dans le ventre. J'ai jamais connu ça, puisque j'ai jamais été en couple. J'ai toujours été assez, je sais pas, assez timide ou assez gênée d'avoir quelqu'un. Il m'explique qu'il a fait les compagnons du devoir en menuiserie. Donc ça, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que je suis quelqu'un d'absolument pas manuel et donc je suis très attirée, même amicalement, par ce genre de profil parce que je suis super admirative des personnes qui savent être créatifs et faire des choses de leurs mains. Il m'explique qu'il a plus envie de faire ça. Et donc qu'il a plutôt envie de faire quelque chose dans le milieu scientifique, mais que pour ça, il faudrait qu'il ait un niveau scientifique de type bac S, et donc qu'il est à l'université et qu'il repasse une espèce d'équivalence sur ce sujet-là. Donc ça se poursuit et très vite, c'est très intense, c'est très fusionnel, on passe énormément de temps ensemble. Mes parents se demandent ce qui m'arrive. Je leur ai pas forcément dit que j'avais rencontré quelqu'un sur le moment. Donc juste, je commence à découcher régulièrement. À ce moment-là, Manu trouve un appartement à Paris. Donc c'est plus facile pour moi. Il a un appartement juste à côté des studios de Radio France. Donc j'y vais vraiment plusieurs fois par semaine. Et très rapidement, je me dis... Waouh, je suis vraiment amoureuse de lui, c'est vraiment intense et c'est génial de vivre ça, mais c'est une relation qui est quand même très centrée sur elle-même. Mais ça se fait comme ça, parce que lui, à nouveau, a pas d'amis proches, il a uniquement son cousin sur Paris, il a quelques connaissances à la fac, mais ça va pas plus loin. Et moi, je suis tellement heureuse... de l'avoir rencontré, j'ai tellement envie qu'il m'aime et que vraiment j'ai envie d'être qu'avec lui. Il est très attentionné, vraiment toujours au petit soin pour moi, à me valoriser, à être dans l'écoute, dans l'empathie. C'est quelqu'un de très doux, il est marrant, il est cultivé. Je sens qu'il a vécu beaucoup plus de choses que moi. Je vois qu'il a une forme un peu de gravité, puis de regard sur la vie qui est pas forcément le mien. Moi, du haut de mes 18 ans, j'ai l'impression que moi, je connais rien en fait de la vie et des difficultés des gens. et que lui, il est beaucoup plus ancré dans le monde, quoi. Donc ça me fascine beaucoup. Il est un peu mystérieux. Il est décalé par rapport aux gens que je connais. Je sens quand même que c'est quelqu'un de fragile dès le début. Mais c'est une fragilité qui me plaît. J'ai l'impression que je l'aide et que je pourrais le sortir un peu de tous ces démons, même si j'entrevois pas exactement ce qu'il y a derrière. Il commence à se confier un peu plus en m'expliquant qu'il a un parcours en réalité qui est assez chaotique, surtout au niveau familial, qu'il a quasiment plus aucun contact avec ses parents, qu'il a repris un petit peu le contact ces derniers temps via ses grands-parents paternels, donc ils l'ont hébergé quand il est arrivé sur Paris et avec qui il a de très bons rapports. Il ne voit plus aussi ses trois frères et sœurs, donc il a deux frères plus petits, très rapprochés en âge. Il a eu des problèmes avec la drogue dès son plus jeune âge, des problèmes donc avec le shit, la weed, etc. Et puis que très rapidement, ça a basculé dans les drogues dures. C'est un milieu que je ne comprends même pas. Il m'en parle vaguement, mais j'avoue que je ne perçois pas du tout ce qu'il a pu vivre. Donc il m'explique que voilà, il est tombé dans l'héroïne, qu'à cause de ça, il a été viré de chez ses parents et donc qu'il a vécu de squat en squat et chez des amis et qu'il a vécu un peu à la rue, qu'il a plus ou moins dealé de l'héroïne aussi pour s'en acheter. Donc j'essaye de comprendre comment il a pu vivre pendant ces mois, ces années. Je pense que moi, j'ai pas forcément envie de creuser cette période-là parce que ça me fait quand même peur et puis que j'arriverai difficilement à être en couple avec le Manu, ancien héroïnomane SDF, je crois. Et il me dit que il a pris sa vie en main il y a plusieurs mois et qu'il a fait une cure de désintoxication forcée lui-même et que maintenant c'est un homme voilà, nouveau et qu'il a envie de repartir sur de bonnes bases. Mais moi, j'ai aucune idée à cette époque-là de ce que ça peut représenter, être addictif à quelque chose. Je vois pas du tout la difficulté que ça peut être d'être un ancien héroïnomane et que c'est quelque chose en fait qui vous poursuit toute votre vie. Alors je le présente à mes parents assez rapidement et puis je raconte pas du tout à mes parents hein, l'histoire qui va avec parce que je me dis qu'ils flipperaient pour moi. J'aurais peut-être dû parce qu'avec leur regard extérieur ça m'aurait peut-être mis la puce à l'oreille. Mais du moins je ne leur dis pas et mes parents sont des gens hyper ouverts. Ma mère et mon beau-père c'est vraiment des gens extraordinaires donc ils l'accueillent à bras ouverts. Passent des moments géniaux tous les quatre et très rapidement ils se disent, voilà, ils se rendent compte que Manu n'a pas de famille proche et qu'il habite dans ce petit 15 mètres carrés à Paris. Donc il lui propose très rapidement de venir vivre à la maison parce qu'en réalité il est là tous les soirs. Donc il s'installe chez nous. C'est une relation qui est complètement exclusive. On passe du temps un petit peu avec mes potes, mais je veux dire, j'étais une grosse fêtarde, je sortais tout le temps et d'un coup je passe la moitié de mes week-ends enfermée chez moi avec Manu. J'ai l'impression que c'est l'amour de ma vie et on parle très rapidement de se marier, d'avoir des enfants, on se projette sur notre futur, sur ce qu'on va faire et ça va très vite et Manu a quand même des fragilités qui sont un petit peu là tout le temps, mais j'ai l'impression que je suis son rock et que si on est tous les deux, tout va bien se passer. Il est hyper sensible, surtout pour une représentation un peu masculine que je pouvais avoir à l'époque. Il pleure assez facilement, il est vachement dans l'empathie, il est très touché par les gens qui souffrent, par les SDF qu'on peut croiser dans la rue, par les familles en difficulté, etc. C'est une grande force chez lui. J'adore ce côté de lui aussi. Mais je sens qu'il est fragile par rapport à ce que je connais, par rapport à mes amis, ou peut-être qu'il le montre plus.
Ça fait à peu près un an qu'on est ensemble. Il loupe la première année, je crois. Il ne réussit pas l'examen. Ça inquiète un petit peu mes parents parce que c'est vrai que bon, moi, je continue à avancer. J'ai eu ma première année de 3 sans problème, etc. Et moi-même, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire hein, parce que c'est pas clair, il n'a pas vraiment de projet professionnel, etc. Mais bon, il décide de retenter une deuxième année. Et à ce moment-là, je ne sais plus qui nous en informe, en tout cas son frère Damien, qui est le plus proche de lui en âge, est atteint d'un cancer. C'est un cancer de la hanche. Et Manu est bouleversée. Je pousse Manu à reprendre contact avec sa famille et son frère. Je l'accompagne une première fois à Strasbourg, donc chez ses parents. Ça se passe bien, on reprend contact doucement. Je me souviens à cette époque-là que Damien me dit « J'aimerais bien qu'on aille voir une de mes amies qui porte le même prénom que moi, Léna. Bon, elle est héroïnomane, mais elle est sous traitement Subutex, etc. J'aimerais bien te la présenter, etc. » Et là, je refuse catégoriquement. Je ne me vois pas aller chez quelqu'un qui prend de l'héroïne, etc. Enfin, je ne saurais pas quoi lui dire, mais je sens quand même qu'on est tellement en décalage. Donc je lui dis, bah, vas-y tout seul, et je passe la soirée avec ses parents et ses frères et sœurs, et ça se passe très bien. Et quand on revient, je sens que Manu est vraiment touché, et je dirais qu'il se renferme un peu plus. Il est triste, quoi. Il est vraiment triste. On se rend compte que la tumeur est tellement importante que tous les traitements n'ont pas suffi, et qu'il lui reste quelques semaines à vivre. Donc c'est vraiment la douche froide pour nous. Moi, à nouveau, qui réalise pas du tout ce qui peut se passer. Et puis c'est une famille que je connais pas bien. Donc on y retourne, on va à l'hôpital le voir dans ses derniers moments. Et c'est tragique. Il meurt quelques jours après. À ce moment-là, je suis complètement déconnectée de ce qui se passe. Je sais pas si j'ai pas envie de me mettre là-dedans ou si je comprends pas ce qui se passe, mais à la place d'aller soutenir Manu à l'enterrement, je vais en vacances avec mes copines parce que c'était prévu et que j'avais organisé le truc. Donc je vais à Belle-Île en mer, c'est moi qui avais tout organisé, etc. Et j'y vais, enfin, je passe des vacances complètement nulle, à pleurer toute la journée avec Manu au téléphone et puis à me dire que j'aurais jamais dû être là. Et quand je reviens, vraiment Manu, il est... Je sens qu'il y a un truc qui a changé, mais j'arrive pas à comprendre quoi. Il y a les premiers signes qui apparaissent, mais des signes que je n'arrive pas à comprendre et j'arrive pas à les mettre les uns à côté des autres pour avoir une image globale de ce qui se passe et qui pourrait m'aiguiller dans un sens ou dans un autre. Donc je commence à percevoir qu'il est de plus en plus fatigué, qu'il a de nouveau la peau plus blanche, des boutons qui apparaissent, une baisse de libido hyper importante. Et il me fait plus ou moins comprendre que c'est moi qui vais plus vraiment vers lui. Donc je me remets vachement en question. J'ai pas forcément d'indication sur ses horaires tout le temps. Je l'appelle, il va pas me répondre tout de suite. Donc je comprends pas forcément. Avec les cours, il est censé y aller. Puis des fois, il m'explique que c'est annulé. Donc je me dis, mais est-ce qu'il me ment? Mais en même temps, vu que c'est quelqu'un qui a toujours été très honnête avec moi, je le crois. Et puis... il change au niveau vestimentaire. Ma mère l'avait vraiment relooké depuis qu'il vivait chez nous, en lui achetant des petits polos, des petits t-shirts, etc. Donc il avait quitté le sweat à capuche, les grosses vans et le baggy. Et là, il s'habille de nouveau comme ça. Donc je comprends pas bien. Je lui demande pourquoi. Il m'explique qu'il en a envie en ce moment et tout ça. C'est-à-dire que ça me passe dans la tête et puis ça repart. Un jour, je me rends compte, parce qu'on doit partir en vacances avec mes parents et Manu en Martinique. Et quelques jours avant, il me montre son bras et il a une trace de piqûre à l'intérieur du coude. Et il me dit, tu crois que tes parents ils vont le voir parce que c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps, je voudrais pas qu'ils se demandent. si j'ai été héroïnomane, etc., qu'ils le comprennent. Et je suis tellement débile ou tellement dans un déni profond que je lui réponds « Mais non, parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Je m'en étais jamais rendu compte que tu avais ça. Donc, ne t'inquiète pas, ils s'en rendront pas compte. » Et puis, au moment de faire les bagages, il me dit « Ouais, il faut que je prenne des cachets, etc. J'ai plein de cachets à prendre parce que je suis un peu enrhumée. » Mais je lui dis « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Enfin, je veux dire, on achètera du Doliprane là-bas si tu veux. Et il prend une trousse de pharmacie avec plein de médocs et une espèce de sirop pour la toux dont il n'y a plus d'étiquette, etc. Et je percute pas. Je percute toujours pas. Et donc, on part en vacances. Les vacances se passent super bien, c'est génial, etc. En revenant de ses vacances, il commence à arriver de plus en plus tard chez mes parents. Donc je comprends pas bien, il me dit qu'il travaille avec ses collègues de l'école, des cours, quoi, qui travaillent après les cours sur des sujets, etc. Bon. Et puis le soir, avant de se coucher, il va une demi-heure enfermé dans les toilettes. Donc, je commence un peu à me péter un câble en me disant mais qu'est-ce que tu fais ? Je veux dire, c'est nouveau, tu ne faisais jamais ça avant. Il me dit ouais, mais je me pose, je joue à des jeux, etc. Et tout. Je me dis mais il se fout de ma gueule, quoi. Pourquoi il fait ça ? C'est hyper bizarre. Mais bon, donc je l'embrouille un peu. Et puis un jour, je trouve dans les toilettes un petit récipient en plastique. D'eau physiologique, donc de l'eau qu'on peut prendre dans les piqûres. Et là, quand même, ça me tilte. Pour la première fois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Donc, j'appelle une de mes copines et je lui dis, attends, il se passe quelque chose là, il faut que je le confronte, c'est pas normal. Là, je crois que Manu, peut-être, il a recommencé à se droguer, mais je fais quand même pas le lien avec tout ce qui s'est passé avant. Je percute juste là-dessus. Et donc, je le confronte et vraiment, il me ment hyper bien. Il me dit, mais comment tu peux m'accuser de ça ? Mais c'est honteux, je te le dirai. Je me suis juste mis des gouttes dans les yeux. Mais vraiment, Léna, tu ne me fais pas confiance, etc. Et donc, je passe à autre chose, quoi. Un jour, il a oublié un de ses livres pour aller en cours. Donc, j'appelle une de ses potes de l'école et je lui dis Manu est avec toi parce que j'arrive pas à joindre et il a oublié son livre. Et elle me dit Mais attends, ça fait 6 mois que Manu ne vient plus. Je lui dis mais comment ça, etc. Il a quitté la formation, il ne vient plus. Donc, pareil, j'en parle avec Manu, il me dit mais attends, elle est complètement tarée cette meuf, pourquoi elle raconte ça ? Pas du tout, je suis juste plus dans le même groupe qu'elle. Donc si, j'y vais, je sais pas pourquoi elle raconte ça, etc. Et pareil, ça passe. Voilà, ça passe toujours. Et il me ment vraiment outrageusement. Et puis, un soir, il n'arrive pas, on l'attend pour dîner. Et il n'est pas là. J'appelle toute la journée parce que depuis la matinée, je voulais lui raconter un truc marrant. Et il ne m'a pas répondu. Et c'est vrai que je m'étais quand même un peu inquiétée dans la journée. Et je commence à stresser. Mes parents me disent « Se moque un peu de moi, genre Léna, c'est bon quoi, calme-toi. Il ne lui est rien arrivé, détends-toi, etc. Il doit être avec des potes, c'est bon, etc. » Je me dis « Mais non, il n'est pas avec des potes, quoi. Où est-ce qu'il est ?» Et l'heure tourne, il doit être 21h, 22h, je pense, en tout cas, il fait déjà nuit. Et enfin, son téléphone m'appelle, et je décroche, et j'entends, mais t'es vraiment une connasse, Léna, mais comment t'as pu faire ça ? Mais comment t'as pu faire ça ? Et je reconnais la voix de son deuxième frère, Xavier, qui est à Paris depuis un moment, et qui vit dans l'ancien appartement de Manu. Et il m'insulte et je comprends pas. Et le téléphone passe à quelqu'un d'autre. Et une femme me dit « Bonjour, est-ce que vous êtes bien Léna ?»« Oui, écoutez, c'est la police. Il est arrivé quelque chose à Manu. Est-ce que vous pouvez venir sur place ?» Donc je dis « Mais non, dites-moi ce qui s'est passé. Non, je ne peux pas vous le dire. Il faut que vous veniez sur place, etc. » Je perçois qu'il s'est passé un truc grave. Pour moi, il s'est fait choper avec de la drogue. Et donc, il va aller en tôle, quoi. Voilà, je me dis, merde, ma vie va s'écrouler, mes parents vont le savoir, bon, je vais le soutenir, comment je vais faire, etc. Je passe le téléphone à ma mère, parce que franchement, je perds pied, et en fait, on habite dans un duplex, mais qui est ouvert, donc je suis sur la mezzanine, et je suis au-dessus, et ma mère est en bas avec le téléphone, et elle dit, mais dites-moi ce qui se passe, quoi. Et là, j'entends dans le téléphone, Manu vient de se suicider. Et là, je tombe par terre. Et mes parents, vraiment, sont abasourdis. Elle nous dit, bah, il faut venir. Il faut venir à son ancien appartement. Il a sauté de cet appartement-là, donc s'il vous plaît, venez. Donc, je suis en pyjama, j'enfile des bottes. Mes parents me mettent dans la voiture, on part tous les trois. Moi, je pleure même pas, en fait. Je ne comprends pas ce qui se passe et j'appelle mes amis. Et notamment mon amie Fleur, et elle me dit « Ok, j'arrive. » On se retrouve là-bas. La police nous dit « Voilà, il a sauté. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, je dis « Bah, écoutez, mais j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas disputé, etc. » Je dis « Non, 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 pas du tout. » Vraiment, je suis perdue, quoi. Je comprends pas. Et donc, mes parents me disent « Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux rentrer ?» Et je me dis « Non, je peux pas rentrer. Je peux pas rentrer dans notre chambre, etc. » Et donc, je vais chez Fleur pour cette première nuit, et elle s'endort, et je vais sur le balcon, et je me dis, bon, est-ce que je me fous en l'air ou pas? Et puis, tout de suite, je me dis, non, franchement, j'avais pas du tout envie, en fait, c'est pas du tout mon truc, quoi. J'ai pas du tout envie de faire ça. Donc, je décide, pour la première fois, et en fait, de manière définitive, que c'est pas quelque chose que je ferais, quoi. Et donc, le lendemain matin, on se retrouve avec ses grands-parents, son frère, son cousin. On reçoit de la police les lettres que Manu nous a écrites. Et puis, je lis la lettre. Et là, j'hallucine, quoi. Je découvre, effectivement, qu'il est reparti dans l'héroïne, et ce, depuis un bout de temps, hein, depuis la maladie de son frère. Alors, il n'y a pas de date précise, donc je ne sais pas si c'est avant sa mort... j'en sais rien, mais du moins, il est de nouveau héroïnomane. Il m'explique que c'est un toxico, quoi, qui passe ses journées à Barbès, qu'il est devenu dealer, qu'il va se shooter dans les toilettes publiques. Enfin, vraiment, pour moi, c'est la descente aux enfers, quoi. C'est de me dire que c'est horrible, c'est les toxicos à gare que vous pouvez voir à Barbès, à Paris. Moi, ça colle pas du tout à l'image de Manu, donc c'est assez dur de faire le parallèle. Et puis il me dit qu'il m'aime et qu'il m'aimera toujours et que il me soutient dans mes projets futurs et tout ça. Donc je dis à mes parents, voilà, vous prenez tout ça, vous prenez la lettre, vous prenez toutes ces clics et ces claques et vous en faites quelque chose. Et je ne sais pas ce qu'ils en font d'ailleurs, je n'ai jamais su, mais j'ai plus rien, j'ai plus de photos, j'ai plus rien. Au début, je suis pas du tout fâchée contre lui. Je me dis... qu'est-ce qu'il a dû souffrir pour en arriver là et comment j'ai pu ne pas voir? C'est plutôt de la colère contre moi, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible d'avoir été aussi naïve, aussi aveugle. J'ai vraiment été en dessous de tout, quoi. J'ai pas su m'en occuper, quoi. Vraiment, c'est ça que je ressens et j'ai l'impression que je vais pas m'en relever, quoi. Je me dis, bon, je vais vivre toute la vie comme ça, quoi. Toute la vie, je vais être anéantie, quoi. La vie va me passer au-dessus, puis je vivrai plus jamais rien. J'aurai plus jamais personne, je me marierai jamais, j'aurai jamais d'enfant. Enfin, qui va vouloir être avec quelqu'un d'aussi bousillé, quoi. Donc c'est vraiment ça que je me dis. Je prends très rapidement un traitement qui me permet de dormir et de revivre un petit peu. Et puis, je suis toujours accompagnée. J'ai toujours des gens avec moi. Mes amis sont extraordinaires et notamment Anaëlle, qui est vraiment là tout le temps pour moi, qui vient passer des journées entières avec moi à regarder des cassettes de Buffy pour me distraire et à me parler. Mon amie Adeline qui m'emmène en vacances, etc. Enfin, vraiment, tout le monde est tout le temps là pour moi. Ma famille aussi est très présente. Mon père, je reprends beaucoup plus contact avec lui. Il me lâche pas et il m'appelle tout le temps. Il est hyper inquiet. Ma sœur... qui a 14 ans à l'époque, mais qui, qui me porte à bout de bras. Donc, et bien sûr, ma mère et mon beau-père qui ne flanchent pas une seconde. Et malgré le fait qu'ils ont quand même perdu un être cher, parce que c'était aussi devenu un membre de la famille à part entière. Donc, il s'est suicidé 2 semaines avant les examens de deuxième année. Donc bien sûr, je n'y vais pas, je passe au rattrapage, mais je passe quand même parce que j'avais eu des bons résultats. Et en même temps, mes parents prennent une décision assez importante. Ils me disent, tu ne peux pas rester chez nous. Tu ne peux pas passer de cette fusion à une autre fusion qu'est celle de Léna et sa maman, parce que je me raccroche complètement à ma mère, etc. Et ma mère me dit, c'est pas possible, je t'ai pas élevée comme ça. Tu dois prendre ton envol, tu dois revivre, etc. Et elle me dit, tu vas prendre une coloc, tu vas rencontrer des nouvelles personnes et tu vas revivre. Donc c'est ce que je fais. Je prends une coloc avec une personne que je connais pas, on devient hyper proche et pourtant je lui raconte mon histoire, etc. Mais elle m'accepte quand même. Et donc cette année-là, elle est là, on sort beaucoup. Alors je suis quand même assez déglinguée, hein. Je pleure quand même très souvent. J'ai des périodes où je peux pas sortir de mon lit. Enfin, très clairement, je fais une dépression. Je suis suivie en psychothérapie 2 fois par semaine. Mais bon, j'avance comme je peux. J'ai des relations avec les garçons assez particulières. Je peux pas du tout avoir de relations sérieuses, donc. Ça, c'est la première année après son DCM à L3. Et puis ensuite, il y a le Master 1. Et là, je rencontre Pierre. Et là, tout de suite, il me plaît. Il est aussi assez manuel. Je le trouve super beau. Je le trouve. Alors, c'est l'inverse de Manu. Il est hyper arrogant. Un mec a très confiance en lui, etc. Mais pareil, je sens qu'il a des fragilités familiales, que c'est quelqu'un qui est complexe. Et il m'a plu tout de suite. Et ça part en relation fusionnelle immédiatement. Et je me noie dans cette nouvelle relation. Les cours, ça n'a plus aucune importance. C'est une relation assez toxique. Il a vraiment le dessus sur moi. Beaucoup de réflexions sur ma tenue vestimentaire, sur mes études. Je suis jamais au niveau, je suis jamais assez bien. Donc je suis très malheureuse. Et en même temps, je suis tellement contente que quelqu'un m'aime. C'est vraiment une renaissance. Je me dis, waouh, en fait, c'est possible de m'aimer à nouveau. Et puis très vite, c'est insupportable. On fait que de se séparer. Il me quitte plusieurs fois. Et puis il revient. Et puis au bout de 6 mois, c'est la goutte d'eau. On est toujours ensemble. Et je me rends compte qu'il est en train de se rapprocher d'une fille. Et là, je crois que c'est trop. Là c'est trop pour moi. Donc je suis chez lui. Je prends toutes mes affaires. Et je quitte son appartement. Et puis finalement, ça me met un gros coup de pied aux fesses. Je me sens complètement soulagée et je me reprends en main. Donc je décide de quitter Paris, je m'inscris en Master 2 à Montpellier. Je dis un petit peu à mes potes de Paris, ciao, j'ai besoin de vivre autre chose. Je deviens à nouveau proche d'un garçon qui s'appelle Hubert, qui m'avait complètement fascinée lorsque je l'avais rencontré. C'est quelqu'un avec qui je peux discuter des heures et des heures, qui a toujours le bon mot, qui me fait rire. Et donc on devient super potes, super proches. C'est vraiment de l'amitié et on s'apporte tellement amicalement que jamais ça sera autre chose. Je pars à Montpellier, je vais mieux. J'ai toujours un rapport au garçon qui est pas le bon. Je suis dans une forme d'hyper-séduction, mais par contre, je ne veux pas que ça débouche sur des relations. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, bon, il faut que je retourne à Paris parce que j'ai envie de passer l'école de la magistrature depuis toujours. Et la prépa est à Paris, donc je vais revenir sur Paris. Puis je suis trop contente, Hubert est là-bas, donc on va pouvoir continuer à être potes. Je me retrouve à Paris et puis je me lance dans la magistrature. Je passe beaucoup de temps avec Hubert et je me dis, bon, bah là, cette fois, j'ai envie de rencontrer quelqu'un avec une pote un soir. Je me dis, waouh, allez, je me prépare. Je vais dans un bar qui vient d'ouvrir et puis bah, je vais essayer de rencontrer quelqu'un. Peut-être que j'en suis capable maintenant. J'ai encore des angoisses sur certains éléments, mais je suis beaucoup plus stable. Et puis, forcément, je prends les choses avec beaucoup plus de légèreté et je me préfère. J'ai l'impression d'être une personne plus sympa et plus cool avec les autres. Et donc, ce soir-là, Hubert m'appelle et me dit, écoute, Léna, j'ai besoin de récupérer un téléphone portable, etc. Est-ce que tu peux m'amener un de tes vieux téléphones portables ? Et puis, je passe juste dans le bar où tu es. Et puis, de toute façon, on va en soirée avec un copain. Je lui dis pas de soucis, je prends le téléphone et puis je l'attends. Il arrive avec un autre mec et il me dit, voilà, je te présente mon meilleur pote, il s'appelle Grégoire. Tu l'as jamais vu parce qu'en fait, on s'est toujours loupé. Il était à l'étranger quand t'étais en France et puis en fait, il est revenu quand t'étais à Montpellier. Et tout de suite, il me plaît. Il me plaît beaucoup. Je me dis, waouh, wow, il me plaît physiquement, il me plaît énormément. Et je lui parle et il me plaît encore plus, quoi. Il est super, super gaulerie. Il fait que des blagues et tout. Et moi, ça me plaît. J'aime beaucoup son humour et on se marre vachement. Et puis, la soirée se passe. Et puis, ils me disent, bon, bah voilà, on part à une autre soirée. Et moi aussi, je dois partir à une autre soirée. En plus, à l'autre bout de Paris. Donc, je prends le métro, j'y vais. Et puis, une fois arrivé là-bas, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, en fait ? Je m'en fous des gens de cette soirée. Je vais retourner voir ce mec. Il faut que je lui parle plus et tout ça. Donc, je reprends le métro dans l'autre sens. J'arrive à la soirée et là, j'essaye un peu de lui parler. Mais il y a des autres filles autour de lui. Je sens que il y a d'autres bails en cours, quoi. Il y a d'autres filles qui peut-être s'intéressent à lui. Et il me demande pas mon numéro de téléphone. Et je suis un peu déçue. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. J'en parle quand même à 2-3 copines en me disant, et ça fait très très longtemps, je pense depuis Pierre, donc on est bien un an et demi après Pierre, que personne ne m'a plu, que personne ne m'a fait cet effet-là. Je pense à lui et je me dis, j'ai senti un truc chez lui qui était un peu plus que un flirt. Et mes amis me disent, mais allez, vas-y quoi, fais quelque chose. Et donc à l'ancienne, je l'ajoute sur Facebook. Et il me répond, un truc qui me fait rire. Bon, je vais le tout pour le tout. Je lui dis, voilà, on se retrouve avec Hubert ce week-end dans un bar près de chez moi. Ça dit de venir et il me dit, non, c'est mort, j'ai une soirée de potes et tout. Je me dis, ok, très bien. La semaine suivante, je retente. Je lui dis, voilà, il y a une soirée avec des potes. Il me dit, ok, je viens. Très bien. Il vient. Et il se passe rien du tout. Je donne tout. J'essaie de le séduire et tout. On rigole de dingue, mais bon, toujours rien. Il me demande pas mon numéro de téléphone. Et je lui dis, on est censé aller à la même soirée ensemble la semaine prochaine. J'espère que tu viendras. Et il me répond, ouais, on verra. Je sais pas. Je viendrai pas. J'en sais rien. Tu te désabuses, il est insaisissable, mais pourtant, je veux dire, quand on parle, c'est pas du tout un mec qui se la joue mystérieux et tout, enfin, on fait que de rigoler et tout, mais juste, il s'en fout, en fait, il s'en fout de moi. À cette soirée-là, je me prépare, j'y vais en avance et tout, et j'appelle Hubert et il me dit, ah non, mais en fait, Grégoire et moi, on fait une before chez une pote et tout, en plus, une pote que je connais qui est absolument magnifique, vraiment une fille sublime. Ils arrivent à la soirée, genre 3 heures après. Moi, j'ai passé 3 heures à ruminer et tout. Je suis vraiment pas en forme. Et puis, c'est pareil, ça recommence avec Grégoire, on rigole, on tchatche et tout ça. Donc, je me dis, allez, ça va peut-être marcher. Je sens quand même qu'il a l'air de s'intéresser un peu à moi. Et d'un coup, il fait un move pour essayer de m'embrasser. Je lui dis, Ah non, en fait. Parce que là, tout ce que tu viens de me faire les dernières semaines, si c'est juste pour me pécho, puis après tu me rappelles pas, c'est pas possible. On est les deux meilleurs potes d'Hubert. Moi, je vais pas me retrouver dans cette situation et te recroiser à chaque soirée, etc. Et il me dit, mais pourquoi tu penses que je suis là, en fait? Parce que je suis venue pour te voir. Donc non, moi, je pense qu'on peut faire quelque chose. Donc on s'embrasse devant tout le monde. C'est vraiment pas un moment romantique. Tout le monde rigole et tout. Mais c'est bonne ambiance. Et en partant de la soirée, je lui dis, écoute, moi, je pars chez mes parents. Donc je suis pas là pendant une semaine. Il me dit, moi non plus. Je pars au ski. Et je lui dis, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas prendre ton numéro de téléphone. Je vais te donner le mien. Et puis si t'as envie de me revoir, bah tu m'appelles. Mais en tout cas, moi, je t'appellerai pas. Je t'ai dit que tu me plaisais, donc si je te plais, bah tu me rappelles. Et le lendemain, il me rappelle. Et tous les jours, il m'envoie un message. Tous les jours, j'ai des nouvelles de lui. Jamais il me fait un coup, il m'appelle pas, etc. C'est hyper facile, quoi. C'est pas difficile avec lui. Contrairement à ce qu'il a fait au début, il joue pas un jeu. Il est juste tout le temps marrant, tout le temps sympa. Il est... Ouais, c'est hyper sain, quoi. On se revoit et Grégoire, c'est un peu un taiseux. Moi, je parle tout le temps. Comme je le disais, j'adore écouter les autres. Je suis vraiment dans l'affect, etc. Grégoire, pas du tout. Lui, c'est le mec gaulerie de la bande. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas forcément pareil de prime abord, qui comprend pas très bien ce qu'on fout ensemble. Mais ça marche. Enfin, c'est une évidence, ça marche. Nous, on s'éclate ensemble. Alors, c'est pas du tout, je me dis pas, c'est l'homme de ma vie, etc. Lui non plus. Je me dis juste, mais c'est vraiment des purs moments avec ce mec. Je me marre trop et j'ai jamais la boule au ventre en y allant. Et à chaque fois que j'y vais, je passe un super moment. Petit à petit, je m'attache à lui. Alors bon, c'est Grégoire, donc il est quand même pas hyper à l'aise avec le fait d'être en couple et tout. Mais moi, ça me gêne pas, puisqu'à nouveau, je suis quand même pas très à l'aise avec l'engagement depuis Pierre. Donc juste, voilà, on crie pas sur tous les toits qu'on est en couple. On s'envoie pas des messages « je t'aime »,« tu me manques », pas du tout. Il est pas du tout là-dedans. Ça fait donc un an qu'on est ensemble. Donc il m'a toujours pas dit « je t'aime », moi non plus, mais franchement, c'est cool. Et il me dit, voilà, moi j'ai toujours aimé voyager et j'aimerais aller vivre en Inde l'année prochaine. Bon, ok, donc il monte des dossiers et il me dit, bon, je sais pas du tout si je vais être pris ou pas, mais on verra. Et il m'invite pour la première fois à passer un week-end avec ses parents et des amis de ses parents et on est tous à table. Donc moi vraiment, je les connais pas, donc je me fais toute petite et tout. Et la mère de Grégoire me dit « Alors Léna, à quel moment t'iras en Inde, toi ?» Et je regarde Grégoire et je dis « Bah je ne sais pas, il faut qu'on en parle avec Grégoire. » Et Grégoire, il est complètement blême. Et il dit « Oui, c'est vrai que Léna... Bah, j'ai eu la réponse, la mère de Grégoire dit « Bah oui, ça fait un bon mois que tu as la réponse. » Et donc, il part dans 15 jours à peu près. Et donc, je me retrouve à côté de lui et je suis même pas énervée parce que je le connais en fait. Il a tellement eu peur de me le dire qu'il a fait un blackout, quoi. C'est Grégoire. On rentre tous les deux chez moi le soir et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Et il me dit « Bon, bah, je pense qu'on ne va pas avoir une relation à distance en Inde, donc bah, il faudra sans doute qu'on s'arrête. » Donc, ok. Je me mets un petit peu à pleurer et je lui dis « Bah, écoute, ok. » Et là, de nouveau, il se met à pleurer et il me dit « En fait, je suis complètement amoureux de toi. Je t'aime, donc non, c'est vraiment une idée de merde ce que je viens de dire. On va essayer. » Je lui dis « Ok. » Bah, tu changes d'avis? Il me dit non, mais je sais pas. En fait, je me rends compte que j'ai pas envie qu'on se sépare, donc on va tenter le truc. J'y crois pas une seule seconde, hein, mais parce que Grégoire, c'est vraiment pas un mec à l'aise au téléphone. comme je le disais, il n'est pas du tout adepte des grandes conversations et tout ça. C'est quelqu'un qui est dans l'action. Il est super attentionné avec moi. Mais vraiment, il dit toujours les actions valent plus que des mots. Donc lui, les déclarations et tout, c'est pas son truc. Mais il part en Inde et ça marche vraiment trop bien. C'est-à-dire que jamais on n'est pas bien. Jamais on froisse l'autre ou quoi que ce soit. C'est nickel. Il part 6 mois en me disant que peut-être il prolongera. Je vais le voir. On passe les 2 semaines les plus incroyables qu'on ait peut-être passées depuis maintenant. Vraiment, c'est génial. On part ensemble à Goa. Enfin, bon, il nous arrive plein de péripéties en Inde, mais on kiffe. Il revient et là, on se dit OK, en fait, cette relation, c'est pas juste comme ça. Je crois que c'est vraiment plus que ça. On décide pas de s'installer ensemble tout de suite parce que, bien sûr, Grégoire, il a trop peur. Mais il me dit, ouais, on va le faire un jour, mais alors là, je suis pas prêt. Et on devient de plus en plus proches et on commence à créer un cercle d'amis en commun et on est tout le temps ensemble. Et on fait que de se taper des barres et on est hyper heureux. Un jour, il me demande d'emménager et donc j'emménage avec lui. Et puis, un jour, je lui dis vraiment, Grégoire, moi, j'ai envie de me marier avec toi, c'est hyper important. Un matin, je mange mes céréales et je vois qu'il est un peu chelou. Et je vais aux toilettes, je reviens et il me dit « Tu finis pas tes céréales ?» Je dis « Non ». Il me dit « T'es sûre ?» Je dis « Oui, oui ». Je repars m'habiller et quand je reviens, il y a une bague de fiançailles avec dedans un Smax Trésor. Il a mis la bague de fiançailles autour du Smax Trésor. J'hallucine, quoi. Il me dit « Ouais, je savais pas trop comment l'amener. » Je dis « Bah, je sais pas, hier, on était dans un restaurant tous les deux pour nos 5 ans. » Il me dit « Ouais, mais je l'ai pas senti à ce moment-là. » Je dis « Bah, ok, pas de problème. » Donc voilà, on se fiance et c'est trop cool. On se marie et c'était génial. On a fait que rigoler. Alors nous, on a vraiment pris ça un peu par-dessus la jambe. On n'a pas organisé grand-chose et on était morts de rire. On s'est pas vus de la soirée parce que... On a fait que de danser et on était hyper bourrés, mais ça nous a pas dérangé. Il n'y a pas eu grande déclaration, etc. On se le dit même nous-mêmes qu'on n'a pas ressenti un amour l'un pour l'autre extraordinaire, je sais pas quoi, comme on s'est vu, non, mais juste c'est un des plus beaux jours de notre vie et de toute façon, on s'aime et on n'a pas besoin de se le dire devant tout le monde. Et puis, ensuite, on décide d'avoir un bébé. Je galère un peu avec des piqûres, machin, mais franchement, Grégoire est là, il me fait les piqûres dans le ventre. Il arrive à tout rendre marrant. Et puis, on a une petite fille, Rose, qui est aussi une gamine qui ne fait que de rigoler et faire des blagues, donc la digne représentante de son père. C'est une histoire géniale avec lui, c'est vraiment le bonheur, quoi. J'ai des papillons dans le ventre, ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble, et à chaque fois qu'il tourne la clé dans la serrure, j'ai toujours hâte de le voir, et c'est mon meilleur pote, c'est la personne avec qui je préfère être en soirée, parce que c'est la personne qui me fait le plus rire au monde. C'est génial d'être ensemble et d'avoir ce bébé et c'est que du bonheur tous les trois. Donc je vais beaucoup, beaucoup mieux. Je pense à Manu très souvent, presque même tous les jours. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Ça a renforcé mes liens avec mes parents, avec ma sœur, avec mes amis. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur qui j'étais. Franchement, je ne changerai rien. S'il fallait recommencer, parce que je pense que j'aurais jamais rencontré Grégoire si j'avais été quelqu'un d'autre, si j'avais pas vécu tout ça, et qu'on serait sans doute pas aussi heureux maintenant.
Je voulais participer à ce podcast déjà pour remercier tous les gens qui ont été là, vraiment principalement déjà ma mère, qui ne m'a jamais lâchée, qui est la personne la plus forte et que j'admire le plus. Et merci à elle, parce que merci de ne pas m'avoir gardée dans un petit cocon fermé, parce que j'aurais mis des années à m'en sortir. Merci à mes amis, merci à mon père et ma sœur et mon beau-père, qui ont vraiment été là pour moi. Je voulais aussi laisser une trace de Manu, parce que c'est hyper important pour moi. Je voulais dire que je l'ai profondément aimé, que malgré ce qui s'est passé, il m'a apporté beaucoup de bonheur et que je ne suis pas la personne que je suis aujourd'hui sans lui. Donc voilà, je voulais lui rendre hommage aussi. Merci à Grégoire pour tout ce qu'il m'apporte au quotidien. Et je n'ai jamais été aussi heureuse que les 10 dernières années de ma vie. plus les jours avancent et plus je suis heureuse avec lui. Il ne m'a pas sauvée, c'est bien tout l'intérêt de cette relation. Personne n'a sauvé l'un ou l'autre, mais juste il me rend heureuse au quotidien. Donc voilà, merci à lui. Et l'idée aussi, c'est d'avoir un témoignage pour Rose. J'aimerais qu'elle sache par où je suis passée. Et puis, peut-être que ça l'aidera à comprendre qui je suis et certaines des réactions que peut-être que je pourrais avoir dans le futur, quand elle sera plus grande. Voilà, donc je voulais qu'elle sache cette histoire-là.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.